Sur Fréquence 7, comme chaque premier mercredi du mois, on se retrouve, qu'il soit 12h30 ou 17h30, pour l'émission Clair d'étoiles. L'émission d'aujourd'hui vous est présentée par Denis de l'association Clair d'étoiles et Brin de Jardin. Bonjour Denis.
Et par Françoise, également de Claire d'Étoile, qui joue le rôle de la Candide. Enfin, de la fausse Candide, car comme tous les membres de Claire d'Étoile, Françoise est experte en étoiles. Bonjour Françoise.
Bonjour Denis. Alors, pour cause de confinement, cette émission est enregistrée à la maison, avec des moyens techniques limités. Veuillez donc excuser les éventuelles imperfections techniques, et pour la même raison, nous modifions un peu la structure habituelle de cette chronique. En effet, nous ne souhaitons pas vous envoyer observer à l'extérieur. Et la rubrique « Ciel du mois » sera fortement réduite à ce qu'il est possible de voir depuis sa fenêtre. En contrepartie, le focus, cette fois consacré à la vie des étoiles, sera un petit peu plus développé. Commençons donc par le ciel du mois d'avril, Denis.
Selon que vous disposiez d'une fenêtre avec vue sur l'ouest ou sur l'est, vous avez le choix entre Vénus d'une part, Jupiter, Saturne et Mars d'autre part. En début de soirée, c'est-à-dire une demi-heure ou une heure après avoir applaudi à la fenêtre nos professionnels de santé, admirez juste à l'ouest, dans les dernières lueurs du couchant, la très brillante Vénus. Elle sera encore présente tout le mois et visitée le 25, espérons que nous serons sortis de nos murs à cette date, par un très fin croissant de lune. Et pour ceux qui ont une fenêtre à l'est, et à condition d'être très matinaux, aux environs 5h30, vous pourrez admirer de droite à gauche le trio Jupiter, Saturne et Mars. Jupiter est de loin la plus brillante, Saturne et Mars un peu moins. Mars est très reconnaissable à sa couleur jaune ou rougeâtre. Pour finir avec le ciel du mois, un phénomène qui risque de vous intriguer et qu'il vaut mieux expliquer avant toute mauvaise interprétation. Si vous voyez en début de nuit une succession de 5 à 10 points aussi lumineux qu'une belle étoile se déplacer de concert dans le ciel, ne paniquez pas. Il ne s'agit pas d'une attaque de vaisseaux extraterrestres, ni même d'ovnis. Ces vaisseaux-là sont bien identifiés. Il s'agit des premiers satellites artificiels de la constellation Starlink que le milliardaire Elon Musk est en train d'installer dans le ciel au grand dam des astronomes. La pollution lumineuse terrestre va bientôt trouver son équivalent dans le ciel, puisque Musk a pour projet de lancer 12 000 de ses satellites pour fournir au monde entier une couverture Internet universelle. Personnellement, je ne les ai pas encore aperçus, mais une amie m'a appelé récemment pour me faire part de ses interrogations devant ce spectacle plus qu'étonnant.
Eh ben nous voilà beau. Donc maintenant, nous allons passer au focus de cette émission et qui sera consacré à l'évolution des étoiles. Et car oui, les étoiles naissent, vivent et meurent.
C'est un résumé un peu romantique. Certes, elles naissent et elles vivent. Mais plutôt que de mort, je préfère parler de changement. Nous verrons pourquoi. Nous avions consacré, l'an passé, un focus aux processus qui conduisent à la naissance des étoiles. Et il n'est pas inutile de les rappeler rapidement. Au départ, il y a toujours un immense nuage de gaz, essentiellement de l'hydrogène, mais avec aussi parfois des poussières de corps plus lourds qui donneront, eux, naissance aux planètes. Mais restons sur les étoiles. À la suite de certaines instabilités, il arrive qu'une partie du nuage se comprime et ce processus est cumulatif. Plus le nuage se comprime, plus il devient dense. Et plus l'attraction gravitationnelle le force à se comprimer. C'est ce que les physiciens appellent une rétroaction positive. Et en général, cela se termine par un cataclysme. Dans ce cas, le cataclysme est ce qui donne naissance à une étoile. La compression échauffe tellement l'hydrogène que la température y devient suffisante pour qu'une réaction thermonucléaire de fusion s'y déclenche. C'est le même mécanisme que celui qui est à l'œuvre dans une bombe à hydrogène. Mais là, la bombe est des milliards de fois plus puissante que ce que nous savons faire sur Terre. Ce mécanisme est bien connu. Deux atomes d'hydrogène se rapprochent et fusionne en formant un atome d'hélium. Or, la masse de l'atome d'hélium résultant est inférieure à la somme des masses des atomes d'hydrogène initiaux. La différence a été transformée en énergie selon la fameuse équation E égale mc2.
E égale mc2, bien sûr. Et donc, voilà comment les étoiles peuvent fournir de l'énergie. Elles consomment leur hydrogène à travers une réaction nucléaire de fusion thermonucléaire. Mais donc, lorsqu'il n'y a plus d'hydrogène, elles sont condamnées à disparaître ?
Pas tout de suite. Lorsque l'hydrogène s'épuise, l'étoile ne dispose en effet plus d'assez d'énergie pour lutter contre l'effondrement gravitationnel dont nous avons parlé au début. Elle va donc se contracter et...
se réchauffer.
Exactement. Et ce réchauffement, encore plus intense que celui d'origine, va permettre cette fois la fusion de l'hélium. Réaction qui va produire comme déchet du carbone et de l'oxygène.
Mais lorsque l'hélium est épuisé...
Eh bien, un nouveau cycle de contraction, réchauffement et fusion des cendres des réactions précédentes démarre, avec production d'éléments de plus en plus lourds, ces cycles étant de plus en plus rapides. En parallèle, les couches extérieures de l'étoile se dilatent, transformant cette dernière en une géante rouge hypertrophiée, comme c'est le cas pour les belles Antarès et Bételgeuse qui illuminent nos cieux, et comme ce sera le cas pour le Soleil dans 5 milliards d'années.
Il y a bien un moment où ce processus s'arrête, lorsqu'il n'y a plus rien à fusionner.
Oui, et cela dépend de la taille initiale de l'étoile. Pour les petites étoiles, comme notre Soleil, le processus s'arrête avec la production de carbone et d'oxygène. Ensuite, il n'y a plus assez de masse pour déclencher le cycle suivant, et l'étoile s'étiole en se contractant lentement pendant des milliards d'années sous la forme de ce que l'on appelle une naine blanche, une petite étoile de très forte densité. Pour donner un exemple, notre Soleil se réduira à ce moment à la taille de la Terre. C'est-à-dire, il sera 1000 fois plus petit qu'à l'origine, mais tout en gardant quasiment toute sa masse, donc une densité énorme. Pour les étoiles plus massives, le processus continue jusqu'à la production d'un noyau de fer qui ne peut plus, pour des raisons physiques un peu complexes, être fusionné. La production d'énergie s'arrête. Le noyau de fer se contracte pour atteindre une densité titanesque. Et toutes les couches extérieures de l'étoile s'effondrent sur ce cœur sous l'effet de la gravité que plus aucune énergie ne peut compenser. La violente compression qui en résulte produit une onde de choc qui remonte à travers les couches externes de l'étoile. Son passage chauffe la matière à des températures supérieures aux milliards de degrés et provoque d'ultimes réactions de fusion qui produisent des éléments lourds, notamment du nickel et du cobalt radioactifs, qui plus tard se désintégreront en fer. Quand l'onde de choc atteint la surface de l'étoile, la température s'élève brutalement et l'étoile entière explose à des vitesses pouvant atteindre plusieurs dizaines de milliers de kilomètres par seconde. Cette explosion, appelée supernova, est cataclysmique. Pendant quelque temps, la supernova a une luminosité extraordinaire qui rivalise avec celle d'une galaxie entière, et elle devient visible même en plein jour. Le cœur de fer continue à se contracter pour former un astre d'une densité inouïe, composé uniquement de neutrons, que l'on appelle justement étoile à neutrons, ou pulsars. Pour fixer les idées, un centimètre cube de cette matière possède une masse de plusieurs milliards de tonnes.
Donc, à la fin, il reste soit des naines blanches, soit des étoiles à neutrons, sans compter les résidus des supernovées.
Oui, les résidus des supernovées sous forme de poussière de carbone, d'oxygène et de toutes sortes d'éléments serviront à ensemencer les futurs systèmes solaires des générations suivantes. C'est de là que proviennent tous les constituants de ce qui forme notre Terre, et nous-mêmes d'ailleurs. C'est pour cela que l'astronome Carl Sagan a pu dire que nous étions des poussières d'étoiles.
Et les trous noirs ?
En effet, il ne faut pas les oublier, ceux-là. Lorsque l'étoile d'origine est très massive, disons plus de 40 fois la masse du Soleil, l'effondrement qui suit la supernova ne s'arrête pas au stade de l'étoile à neutrons, mais continue au-delà. La densité résultante devient tellement élevée que même la lumière ne peut plus s'échapper d'un tel astre. Il s'agit d'un trou noir. Nous ne savons pas encore très bien ce qu'il peut y avoir à l'intérieur d'un trou noir, car à de telles densités, nos modèles physiques ne sont plus valables. Il reste donc pas mal de pain sur la planche pour les futurs astrophysiciens.
Donc alors, si j'ai bien compris, hein, en résumé, les étoiles ne meurent pas vraiment, mais elles se transforment peu à peu en naine blanche, étoile à neutrons et trou noir.
C'est parfaitement bien compris. En première approximation toutefois, car il reste encore d'autres possibilités, mais majoritairement cela décrit très bien la situation.
Les étoiles ne meurent jamais, et comme nous sommes de la poussière d'étoiles, nous ne mourrons jamais tout à fait non plus. Restons donc sur cette conclusion optimiste.